Ça fait la famille.
Une amie me fait suivre un mail. Le mail parle d'une rencontre entre deux poètes. Les deux poètes sont Laurence Vielle et Serge Núñez Toline. La rencontre se déroule dans le sous-sol d'une librairie à Woluwe-Saint-Lambert. Les murs du sous-sol de la librairie sont tapissés de livres. Les sons sont amortis. Tout le monde peut s'entendre. Il n'est pas nécessaire d'amplifier les voix. Public chaleureux, lumière douce. Les micro-cravates sont fixées, mais pas sur des cravates. Les unités d'enregistrement mémorisent.
Bonjour Serge.
Bonjour Laurence. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre, crois-tu ?
Ah bien, en fait, c'est grâce à Yves que je rencontre Serge.
Et réciproquement.
Voilà, donc nous ne nous connaissions pas, mais en poésie, on n'est jamais très loin les uns des autres, surtout en Belgique qui est francophone. Il y a beaucoup de fraternité, de sororité entre poètes. Et, par exemple, Marc qui est là, tous les deux, on le connaît. Enfin voilà, c'était vraiment un de nos traits d'union. Donc il y a beaucoup de... Les poètes se connaissent, c'est vrai, non ?
Oui, se connaissent.
Mais on ne se connaissait pas, mais on se rencontre facilement.
On va un peu nourrir la rencontre, hein, effectivement. Oui. Principalement, c'est autour de ce livre-ci, Billet doux, s'agissant de Laurence.
Et pour toi, c'est autour de l'immobilité et un brin d'herbe.
Voilà, et sur le fil de la présence, paru en France, paru en Belgique.
C'est important de dire les éditeurs, ça c'est le taille-près. Ça c'est le cadran ligné.
Et là le castor astral.
Et là le castor astral.
Éditeur français aussi. Hein.
Oui. Il y a aussi un éditeur belge une réédition d'un... Ouais. Ouais. Mais je parlerai de l'éditeur belge de David Giannoni plus tard.
Voilà. Très bien, oui. Malmström.
Vas-y.
L'idée c'était une rencontre à partir d'un usage, si on peut parler d'usage s'agissant de poésie, mais d'un usage de la poésie qui au départ peut sembler très différent. Hein, la façon de Laurence de faire et de pratiquer la poésie et la mienne sont vraiment à des points très peut-être étrangers l'un à l'autre ou pas. Ça, on va...
Étranger, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est deux abords différents. Quel est le tien ?
Alors, le mien, pas mal. Alors, le mien, on va rebondir. Donc, le mien, je pense que c'est d'abord une écriture et une voix intérieure. Donc, j'ai beaucoup de plaisir quand j'ai entendu à l'une ou l'autre occasion quelqu'un d'autre lire à voix haute mes textes. Je me fait plaisir d'entendre ça. Mais au départ, c'est une écriture intérieure, c'est une exploration intérieure. Et c'est pas une écriture qui cherche la lecture à voix haute.
Oui.
Par contre, voilà.
moi, j'aime vraiment j'aime vraiment lire les poètes qui ont cette écriture plus intimiste, où il y a vraiment un rapport très intime entre le lecteur et le livre, en fait. Hein. Et le livre, cette espèce de communion, de présence intime. Et moi, j'aime vraiment... je suis toujours étonnée de voir qu'il y a des livres de mes poèmes, parce que moi, j'aime vraiment les dire tout haut. Et j'aime la scène, et je travaille souvent avec des musiciens, d'ailleurs. Et en même temps, j'aime beaucoup aussi que ça existe dans des livres... Mais c'est vrai que j'ai un plaisir fou à dire, pas seulement mes mots à moi, mais aussi les mots des autres. Par exemple, j'ai eu la joie de dire tes mots. Je suis passionnée par l'oralité de la poésie. Mais quand je lis les mots de Serge, je trouve qu'il y a de l'oralité aussi, mais peut-être que je vois de l'oralité partout.
Voilà. Ah, oui. Oui. Donc... Finalement, je commence par ceci.
Oui, c'est une bonne idée. Ouais. Oui.
Donc, ces deux livres-ci qui sont parus l'année passée, comme souvent chez moi, la parution ne respecte pas la date de rédaction. Hein, alors ça, c'est des livres qui, pour moi, ont toujours beaucoup d'actualité, mais qui sont anciens. Ça a commencé par celui-ci, donc au taille-près, sur le fil de la présence, que j'ai écrit. Alors, les dates, pour moi, c'est très important. J'ai écrit ça entre le 2 juin 2005 et le 22 décembre 2005. Et au 22 décembre 2005, j'ai commencé celui-ci pour le terminer le 27 juillet 2006.
Et pourquoi les dates sont très importantes ?
Je sais pourquoi, en fait. Je me rappelle maintenant. Oui. Non, je sais. Elles sont très importantes parce que assez vite, j'ai eu trop de matériel, je dirais, et pas assez d'éditeurs. Et donc, j'ai fait paraître tel ou tel livre en fonction de choses un peu aléatoires, en fonction de circonstances du moment ou d'une sensibilité du moment. Il était important pour moi, à un moment donné, de pouvoir, pour le lecteur, de rétablir ce que j'appelle un peu immodestement le parcours de l'œuvre, donc la séquence. Parce qu'il y a une narrativité. Si on prend tout l'ensemble, il y a vraiment ce que j'appelle le travail du diariste, donc l'écriture accompagne ma vie.
Presque au jour le jour, quoi.
Il y a des moments, c'est au jour le jour, oui, ouais. Oui.
Bah alors moi, je suis très différente de lui. Mon écriture est un chaos. Même que c'est vrai qu'il y a des périodes aussi d'écriture qui sont sans doute différentes. J'ai quand même mis ici, au début de ce livre, j'ai écrit poème écrit en partie, parce qu'il y a une partie qui est anthologique où c'est des poèmes depuis longtemps, je vous expliquerai après. Mais l'autre partie, elle est écrite entre 2017 et 2022, dans le désordre du temps, aux interstices d'un quotidien dont le fil est un plancher de bois, une île au milieu de Bruxelles, un ici qui se demande d'où il parle, qui glane et charrie au vent du monde des visages croisés, des fragments de vie, à lire à haute ou basse voix, au hasard de la pioche, en tournant à la vitesse de 30 km par seconde autour du soleil. Voilà, donc vous pouvez lire dans le sens que vous voulez.
Et voilà, et je trouve que pour planter le décor, si on peut dire les choses comme ça, ce serait bien, Laurence, que tu dises, vous allez voir que c'est plutôt dire que lire un texte, et puis moi, juste après, comme ça, on juxtapose les contraires, ouais, ou les différences, disons plus exactement, juste après, je lirai un texte aussi.
Alors, je vais honorer mon papa qui est là, puisque c'est un honneur que mon père soit là, parce qu'il ne se déplace plus si facilement que ça. Alors, je vais lire un texte. En plus, il est arrivé dans notre famille quelque chose d'incroyable, il y a maintenant un an et demi. Mon père a découvert qu'il avait une fille qu'il ne connaissait pas, mais qui n'est plus là, malheureusement, qui est décédée, mais ses enfants ont retrouvé mon père. C'est incroyable. Et donc, mon père s'est retrouvé du jour au lendemain avec 3 nouveaux petits-enfants et 6 arrière-petits-enfants, hein, papa. Voilà. Et
ça fait cher à Noël. Hein.
Et donc, j'avais écrit ce poème, évidemment, bien avant que cette histoire arrive, mais je trouve ça marrant de lire ce poème, que je ne savais pas que cette histoire arriverait. J'ai d'autres frères et sœurs que mon père connaît, qui sont, enfin voilà, notre famille légitime, entre guillemets, voilà. Et on s'entend très bien avec cette nouvelle famille, c'est assez incroyable. Et donc, mais voilà, je vous lis cette histoire. J'avais écrit ce poème qui s'appelle « La famille », mais j'avais mis entre parenthèses le « M ». Ça fait la faille, quoi. Enfin bon. Et donc, ça fait la famille. C'est le début de tout toi, le début de tout moi. C'est pour le père et la mère, c'est pour le pire et la mire, c'est pour le porc et la mort, c'est pour le par et la mare, c'est pour le pur et la mûre, c'est pour le pour et l'amour, pour tout ça, quoi. La famille, c'est celle qu'on vit en père et mère, en bosse, en creux, en anicroche, c'est facile, et dis-moi, c'est difficile, la famille, c'est un didi, cible, enfin tout est dit, c'est divisible, et c'est didi pas dit, et tout se dit, rien ne se dit dans la famille, et tout se vit, et pas grand-chose, et pauvre et riche et pauvre, et serre les coudes, et serre la table, et serre les fesses, desserre couvert, et couvre-toi, et nu d'abord, en nu d'enfant, et puis va t'habiller, c'est fier, pas fier, c'est doux, pas doux, c'est joue au jeu, joue avec nous, joue pas au jeu, c'est claque-porte, claque-main, claque et claque, c'est divorce, c'est dispute, et dissoute, et disparaît pas, ma famille, pas facile, c'est discorde, et c'est amour aussi, c'est famille, modèle, qui te modèle, au parfait fait que t'atteins jamais, c'est non-amour à la cuillère que t'avales jamais, c'est vessie pour lanterne qui t'éclaire pas, c'est je te hais, je t'aime, c'est moche et miche et mâche, allez, mâche ta viande, fais pas de bruit en mangeant, et sors tes coudes de table, et sors la vaisselle, et sors le linge, et tâche, et tâchons pas la nappe des grandes fêtes, et ces grandes fêtes, et grands repas, et ces naissances, Noël et Pâques, on se retrouve aux enterrements, toutes les fêtes, et tous les steaks, et les asperges, les fraises, la dinde, apéro à gogo, roulé jeunesse, c'est les bons vins qu'on sort, 24, 20 de messe, regarde dans ton assiette, et ces fêlures qu'on cache, et puis qu'éclatent en pleine tronche, c'est famimique que t'attrapes de père ou mère, sans même que t'aies voulu mimique, que t'as les mêmes. C'est famille, mimi, figue et mi raisin. Et puis tu l'élargis, tu dis famille. Famille, c'est plus ça, surtout plus ça. Famille, c'est les amis, ceux qui maillent la trame de l'essentiel, ton essentiel. Parce qu'en famille, étrangement, t'es restée l'étrangère qui a rien compris aux règles. Alors oui, t'as grandi et t'élèves tes enfants. Famille trop vaste, vie multitâche et sans répit et sans repos. Où la famille t'aide en somme à marcher droit, à pas tromper, à te rattraper. Famille, famille, allez, lumière, lumière, surtout pleine lumière. Allez, allez, famille, famille, j'en vis, j'en crève. Et quand tu claques, famille, mille, et tous sont là, pas seuls pour partir, cercueil en famille. Et même si étranger, étrangère, c'est là toujours que tu peux échouer et rire des choses que tu sais et pas rire des choses que tu sais aussi. Être là, juste là, en comptant rien, rien que sur toi et la famille, et aimer, aimer de tout ton être, parce qu'aimer, aimer, cela sauve de tout. Ça, oui, ça, tu le sais. Voilà.
Laurent, c'est quand tu as écrit ça? En quelle année?
Je ne sais pas, je n'écris pas les années. Enfin, non, c'est vrai, je ne sais pas.
Quelle était la question?
En quelle année?
Ah, c'est tout à fait honnête. Moi, je peux le dire chaque fois.
C'est ça. Oui, c'est ça, je ne sais pas. Entre 2017 et 2022, je dirais, 2023, peut-être 2024.
Je l'avais sélectionné, celui-là.
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment... Le texte que Laurence vient de lire, je l'avais aussi épinglé, puisque j'ai bien lu aussi... Le billet doux, et je me disais, mais... Parce que si je prends... Quelle page c'était encore celui-là? Je ne sais plus. Si...
33.
33, oui, voilà. Si je lis ce texte, par exemple, moi, qui... bon, c'est pas comparable. Hein. Donc, alors, regardez, alors, je vais aussi me lever hein, pour essayer de... Alors, donc, il y a les redites de lettres, elles sont là, elles sont écrites. Tout est écrit, en fait. Et c'est ça qui m'épate vraiment énorme, c'est que tout est écrit, mais en fait, quand tu le dis, on ne sent pas que c'est de l'écrit, c'est de l'oral. Et donc, moi, je vais le rétablir dans l'écrit, parce que je ne sais pas le lire comme Laurence. Donc, la famille, la famille, c'est le début de tout toi, le début de tout moi, c'est pour le père et la mère, c'est pour le pire et la mire, etc.
Ah, mais c'est bien, bon.
C'est, oui, enfin bon. Merci. Mais donc, voilà, je voulais simplement rétablir l'écrit. Enfin, vous l'avez peut-être senti, évidemment. Hein. Et puisqu'on rétablit l'écrit, on va continuer. Voilà, on va continuer.
Donc, tu vas nous lire sur le fil de la présence.
Alors, je vais. Voilà, c'est ça. Donc, extrait de ceci. Qui est une réflexion à partir des œuvres du peintre italien de Bologne, Giorgio Morandi, qui peint, disons pour simplifier les choses, à peu près un seul sujet. C'est sur une petite étagère qu'il a dans son atelier, des flacons, des pots en émail ou en porcelaine, dans un sfumato comme ça, un peu toujours identique, dépersonnalisant.
Voilà, je vous en montre ici.
Ouais, j'ai pensé à porter des cartes postales, mais bon, après, voilà.
Oui, c'est toujours des pots et toujours avec la même facture.
Ouais.
Il peut y avoir des variations sur le même pot.
Oui, c'est ça. Ouais. Il fait des paysages magnifiques aussi. Mais ces flacons, c'est aussi des paysages, en fait. Hein. Bon. Alors, je vais donc un peu... comment ce livre commence vraiment sur ce tableau-là. Cerne silencieux des formes. Le regard s'absorbe dans l'échange muet des objets entre eux. Flacons de verre et bouteilles disposées en rang, cruches de vieil émail, couleurs passées. Chose banale, une forme du présent. Une étagère, la table et l'enduit des murs, cela, dans une douceur impersonnelle. Silence que l'on regarde en aveugle, qui fixe l'instant en une immobilité prolongée. Chose posée là, hors des salutations, sans démonstration. Présence anonyme et immédiate, muette par évidence, aux portes d'une intériorité sans mots. se tenir là, longtemps après que les heures nous ont jetés contre elle, dans cet acquiescement aveugle. Acceptation si complète qu'elle n'est pas uniquement clarté ou obscurité. Oui et non, dans une réciprocité où rien ne commande qu'il s'oppose ou s'exclue. Les objets, leur force d'immobilité, leur résistance, leur état d'apparition continu, cette morsure que les choses nous imposent.
Voilà. Donc c'est vraiment sur le fil de la présence, c'est vraiment à partir des œuvres de Morandi.
C'est-à-dire que j'ai pris appui sur les œuvres de Morandi parce que ça correspondait à, quand je parlais tout à l'heure du parcours de l'œuvre, ça correspond à un cheminement où, pour simplifier, je dirais qu'à cette époque-là, je m'interrogeais sur la légitimité que je pouvais avoir, moi, de dire « je » dans un livre, de l'exprimer et même de me faire publier. Pourquoi allais-je ajouter quelque chose à tout ce qui existe déjà dans le contexte de notre époque, mais ça pourrait être dans le contexte de toutes les époques, hein, quel droit avais-je, après les différents grands tourments du XXe siècle, à prétendre à demander de l'attention. Donc, et assez vite, j'avais un besoin de me défaire du fond narcissique qu'il peut y avoir dans l'écriture ou dans n'importe quelle personnalité. Et les objets comme Morandi les peignait, c'était pour moi un tremplin pour atteindre une sorte d'anonymat général des choses. Et donc une acceptation.
Donc, est-ce que je peux aussi lire alors ?
Pardon ?
Je peux aussi lire.
Ah oui, bien sûr, avec plaisir.
Je vais faire la même chose.
Grand plaisir.
Tu veux que je continue ou que je reprenne un peu ?
Comme tu veux. Ou ailleurs. Hein. Tout le livre n'est pas... On démarre avec Morandi et puis on le laisse.
Cerne silencieux des formes. Le regard s'absorbe dans l'échange muet des objets entre eux. Flacons de verre et bouteilles disposées en rang, cruches de vieil émail, couleurs passées, choses banales, une forme du présent. Une étagère, la table et l'enduit des murs, cela dans une douceur impersonnelle. Silence que l'on regarde en aveugle, qui fixe l'instant en une immobilité prolongée. Chose posée là, hors des salutations, sans démonstration. Présence anonyme et immédiate, muette par évidence. Aux portes d'une intériorité sans mots. Se tenir là, longtemps après que les heures nous ont jetés contre elle, dans cet acquiescement aveugle. Acceptation si complète qu'elle n'est pas uniquement clarté ou obscurité. Oui et non. Dans une réciprocité où rien ne commande qu'il s'oppose ou s'exclut. Rien ne me ferait dévier de la station debout que je tiens au-dedans comme elle est au-dehors, sans appui, comme un guet, sans défection, debout sur le vide, avant d'être l'homme, en être la position debout.
Super.
C'est magnifique.
Ouais, c'est chouette. Hein.
Enfin, moi, je trouve ça magnifique. Puis, émouvant, j'aime beaucoup l'œuvre de Morandi et je trouve que tu lui donnes une espèce d'écho formidable, en fait. Et, pour ceux qui connaissent Morandi, vous devez ressentir la même chose.
Et si vous ne connaissez pas, vous allez y voir maintenant. Hein.
Voilà.
Morandi, c'est vraiment très, très beau.
Ouais.
Bon, ben, merci beaucoup.
Non, merci à toi. Oui.
On peut continuer un peu le voyage.
Oui, oui, bien sûr. Oui.
Par où continuer ? Ben voilà, je vais peut-être parler, moi, tu as parlé que tu avais deux livres, et moi je vais peut-être vous parler de la construction de celui-ci. Donc c'est une collection qui existe depuis quelques années maintenant au Castor Astral, qui est à la fois anthologique et à la fois avec des poèmes inédits. Donc la deuxième partie, c'est une partie anthologique pour moi, et c'est important d'en parler parce qu'en fait, moi j'ai pas tellement le souci d'être éditée, et donc je suis principalement éditée chez une seule personne, c'est David Giannoni, c'est les éditions Maelstrom, et donc je l'aime beaucoup parce qu'il fait des petits livres comme ça. C'est des petits livres qui coûtent 3 euros, et si vous les croisez, il y a déjà 300 numéros, Et on est plein de poètes à être édités là-dedans. Et ça, c'est souvent des poètes qui sont quand même liés à l'oralité. Et moi, je suis très heureuse d'être publiée là-dedans. Et donc, j'ai pris un petit peu des petits bouts de tous ces livres pour les mettre dans la partie anthologique. Et voilà, le premier que j'avais sorti dans cette collection, c'était... je regarde les numéros parce que je ne m'en serais pas rappelé sinon. C'était Récréation du Monde. Et puis, il y avait eu État de Marche. Souvent, mes petits livres. Et puis, j'ai sorti aussi chez lui deux livres. Un comme poétesse nationale. Et il y a aussi des morceaux là. Et je les aime bien, ces deux livres, parce que comme il sait que j'aime pas trop l'édition, il m'avait fait mettre des CD dedans. Ouais, comme ça, on pouvait les écouter une partie des poèmes. Ouf. Donc, on peut... Voilà. Et ça m'avait beaucoup plu. Et alors, après celui-là, j'ai encore édité celui-ci, chez Almanach, qui s'appelle Renaître, parce que c'était une partie de ma vie. Alors là, par contre, c'est plus centré dans le temps, un peu comme toi. C'est une partie plus précise de ma vie, où j'ai eu l'impression qu'il y avait une forme de renaissance, et j'ai eu besoin d'alors d'en faire un petit recueil plus comme ça. Et qu'est-ce que je peux... Je vais peut-être vous lire... un très vieux poème que je vais vous lire, parce qu'il fait partie de là et de la Récréation du Monde. Et je crois que j'ai vu que tu l'avais coché, c'est État de Marche.
Ah, c'est possible, oui. Parce que le titre, quand tu le liras, je le reconnaîtrai.
Et peut-être que je vais vous le lire parce que ça correspond à ma façon de travailler aussi. Souvent, je dis mes textes sur scène, j'en fais des spectacles. Et État de Marche, c'était l'histoire d'une marche entre Paris et Bruxelles. Et j'étais passée par la mer du Nord et j'avais marché avec mon compagnon de l'époque qui était danseur, j'avais raconté cette marche, et ça c'était avant de partir, c'était État de Marche, étape zéro. Et c'est un vieux texte, mais je l'aime bien parce et c'était avec des musiciens, Catherine Grindorge au violon, Elie Rabinovitch à la batterie. On peut être assis, on peut être debout. On peut rester sur place, on peut être en mouvement. On peut rester sur place en étant assis, ou rester sur place en étant debout. On peut être en mouvement pour avancer, ou être en mouvement pour bouger sur place. On peut avancer en étant assis, on peut avancer en étant debout. On peut avancer assis lentement, on peut avancer assis à très grande vitesse. On peut avancer debout sans bouger les pieds, on peut avancer debout en marchant. Tout homme véritable respire par les talons, a dit Chuang Tzu. On peut marcher vite, on peut marcher doucement, on peut marcher avec des chaussures ou sans chaussures, à l'intérieur ou à l'extérieur, tout nu ou habillé. On peut marcher avec un sac à dos, un sac à main ou sans sac. On peut marcher seul ou accompagné, avec un but ou sans but, avec un domicile fixe ou sans domicile fixe, avec des papiers ou sans papiers, en étant joignable avec un portable ou sans être joignable, sans portable, avec une carte ou sans carte. On peut marcher en prenant le chemin le plus court entre deux points ou en prenant le chemin le plus long entre deux points. On peut marcher pour flâner, on peut marcher pour rêver, on peut marcher pour rire, on peut marcher pour pleurer, on peut marcher pour prier, on peut marcher pour parler, on peut marcher pour chanter, on peut marcher pour rien. Quand je suis morte, je ne marche pas. Quand je marche, je ne suis pas morte. Quand je marche, je défie l'attraction terrestre, entre deux pas, je flotte un tout petit moment, c'est vrai. Je peux marcher en Asie, en Afrique, en Australie, en Patagonie, en Suisse, au Liechtenstein. Je peux marcher sur le bitume, sur la poussière, sur la terre, sur les cailloux, sur le verre, sur le plastique, sur la lune. Depuis 1969, je peux marcher sur la lune. Quand je marche dehors, je suis en relation avec l'univers. Bien que les pieds de l'homme n'occupent qu'un petit coin de terre, c'est par tout l'espace qu'il n'occupe pas que l'homme peut marcher sur la terre immense, a dit Chuang Tzu. Quand je venais d'apprendre à marcher, c'était difficile pour moi de rester sur place. J'ai appris à marcher pour m'éloigner de mes parents, puis quand j'ai eu 3 ans, je me suis assise à l'école. Je peux faire un métier où je serai beaucoup assise ou un métier où je serai beaucoup debout. Je suis assise à la maison pour manger, pour travailler, pour lire, pour éplucher mes légumes, pour regarder la télévision, pour prendre mon bain, pour tricoter. Je suis debout à la maison pour éplucher mes légumes, pour préparer à manger, pour courir au téléphone, pour aller d'une pièce à l'autre, pour nettoyer, pour danser, pour sauter de joie. Je suis debout dans la rue pour marcher d'un endroit à un autre, pour faire les courses, pour aller pointer avant, pour manifester. Est-ce que mon corps est en état de marche? Est-ce que mon cœur est en état de marche? Et mes pieds, et mes genoux, et mon ventre, et ma poitrine, et mes poumons, et mon menton, et ma bouche, et ma langue, et mes pupilles, et mes cheveux, et ma papille, et mon souffle. Est-ce que mon souffle est en état de marche? Stevenson disait, j'ai deux docteurs, ma jambe gauche et ma jambe droite. Quand je marche, ma pensée s'éclaire. Quand je marche, je fais attention aux heures de l'univers et non à celles des trams. Quand je marche, je suis lente. Quand j'ai l'esprit mécanisé, je perds la paix de mon âme. Je suis une machine thermodynamique, plus rentable que n'importe quel véhicule moderne et plus efficace que la plupart des animaux. Je peux marcher par simple amour du vent et de la terre. Alors c'est l'histoire d'une fille. C'est l'histoire d'une fille. Elle tombe amoureuse de souliers rouges dans une vitrine. Sa mère lui dit « Non, ma fille, ils sont trop beaux pour toi. » Et puis un jour, cette fille, elle finit par les avoir, ses souliers rouges. Et quand elle les passe à ses pieds, elle ne peut plus s'arrêter de marcher autour de la terre, de marcher autour de la terre. Elle ne peut plus s'arrêter, plus jamais, de marcher autour de la terre, de marcher autour de la terre avec ses souliers rouges. Ses souliers rouges qui marchent sans cesse autour de la terre, qui la font danser, courir, sauter, trébucher, déraper, marcher, 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 marcher. Et pour l'arrêter, il faut qu'on lui coupe les pieds. Oui, c'est un peu terrible.
Alors, je vais vous lire deux courts textes extraits de L'immobilité et un brin d'herbe. Donc là, à la lecture, on verra qu'on s'est dégagé de cette fascination presque vertigineuse portée sur Morandi et sur les choses en général pour entamer, c'est des livres qui, à cette époque, opèrent ce mouvement, entamer un mouvement, je dirais, qui... C'est comme si les mots avaient à se dégager des choses pour commencer à se tourner vers le monde et à dire ce que c'est le jeu dans le monde. Et dans ce chemin-là, je voudrais vous lire ces deux passages, plutôt courts, mais voilà. Rien ne fera que les mots, chargés de l'idée de sève, n'éclosent en fleurs s'ouvrant à la lumière. Un long acquiescement, comme l'usure du caillou, l'œuvre d'un présent qui se fait. Je suis un silence dressé, homme debout. Donc, moi, je crois que ce qui doit vous frapper tout de suite, hein, c'est que, d'une part, on a une écriture qui passe entièrement par le corps et une écriture où la respiration, chez Laurence, la respiration opère la scansion, donne le rythme, donne le mouvement. Tandis que ce que je fais, et surtout avec ces livres-là, par après les livres que j'ai publiés en France chez Rougerie, privilégie un rapport plus direct, plus immédiat, hein, une vie plus immédiate. Mais en tout cas, à ce moment-là, pour ces deux livres-là, c'est une écriture beaucoup plus intériorisée, mais qui cherche à briser, à rompre la gangue. Et à sortir.
Par rapport à ça, je pourrais lire trois petits
passages. Oui, volontiers.
La voix que nous avons sous la peau, nous l'entendons dans toute l'enveloppe du corps. Ouvrir, ici, un chemin vers le réel. Langue enfermée, qui disant ce qui est, ne dira que son enfermement, n'aura dit que le nôtre, dès que l'on prétend parler. À observer le silence des choses, je me vois rejoint. Le vide est comme notre prolongement, et les mots ne seraient pas soutenus s'ils n'allaient entre le vide et le monde. C'est magnifique.
Oui, c'est super. Merci beaucoup.
Je dirais que c'est presque méditatif, qu'on pourrait presque à chaque phrase s'arrêter, parce qu'en plus, cette disposition dans le livre laisse beaucoup d'espace au lecteur, en fait, parce que chaque phrase peut résonner dans la page et dans le lecteur. Et donc, c'est, oui, c'est, tu invites à un espèce de voyage vraiment très intérieur.
Mais bon, effectivement, l'idée, c'est de se dégager de ça, hein, et d'arriver à une relation aux choses plus immédiates, ce que j'ai la prétention de croire que je parviens tout doucement à atteindre la poésie que j'ai toujours voulu tenter.
Hein. Et je pourrais te poser encore une question.
Oui, bien sûr. Oui.
Donc, tu écris, tu as une pratique quotidienne de l'écriture ?
Ces temps-ci, plus tout à fait. Mais quoique je n'arrête pas vraiment d'écrire, mais il y a des moments, oui, il y a des années où j'écrivais une phrase ou plus, ou parfois beaucoup plus. Et si j'avais le bonheur d'être en congé et d'être à la maison, alors là, j'écrivais beaucoup. Mais je jette énormément. Alors, je suis aidé pour jeter. donc, je fais un travail de constant regard sur l'écriture pour enlever le discours, pour enlever les redites, enfin, des choses comme ça. Voilà. Et ça, je me fais aider par M. Dugardin.
Quelle est la marque Dugardin, si vous ne le connaissez pas.
Voilà. Et donc, moi, je voudrais te poser une question aussi à mon tour. Je suis fort, comment dire, j'ai toujours été fort préoccupé par le problème qui est le mien de ne pas avoir un discours ou une voix politique dans la poésie. Parce que je trouve que un des centres de... Enfin, plus que jamais, on a besoin de politique. Et je lirai la politique au sens général du terme à l'humanisme, à la sororité, à la fraternité. Plus que jamais, on a besoin de politique. Et donc, moi, je suis toujours très, très insatisfait parce que je n'y parviens pas à mettre de la politique dans la poésie. Alors parfois, je rencontre, il y a des auteurs français comme Jean-Claude Leroy ou Thierry Romagny ou d'autres qui mettent de la politique dans leurs textes. Et ça tient. Le problème, c'est que, par exemple, on a Aragon ou Éluard qui ont fait ça en leur temps, et ça tient pas. C'est même stupide. Et alors, par contre...
Tu trouves que
Oural d'Aragon, entre en je ne sais plus quelle année, c'est une catastrophe poétique. Proprement dit. Hein.
En tout cas, c'est ton avis.
C'est mon avis. Oui. Ça a été le sien aussi, hein, même après coup. Hein. Oui. Oural, il faut lire ça. Hein. Vive Staline, etc.
Oui, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres qui étaient politiques et réussis.
Ah oui, bien sûr. Je pense actuellement, je pense à Jean-Claude Leroy. Il y a Thierry Romagné, par exemple, qui publie chez Rougerie autant qu'il fait. Et non. Moi, j'aimerais bien. Alors justement, c'est entre autres ce que j'ai aimé chez toi. Et j'aimerais, alors c'est moi qui vais lire, si tu te permets. J'aimerais lire, je crois que c'est celui-ci que j'avais. J'en avais en tout cas coché deux plus particulièrement. Il faut que je reprenne mes notes, si vous permettez. Oui, c'est ça, oui. Il y en a d'autres, mais enfin, bon, voilà. On va commencer par celui-ci. Et je vais le lire, mais à ma manière, hein, comme on lit, voilà, sans l'oralité, etc. Mais éventuellement, peut-être je m'arrête au milieu et toi tu le reprends.
D'accord,
et comme ça,
d'accord.
Hein, comme ça tu rétablis la chose. Hein, donc j'espère que ça ne va pas trop te décevoir.
Non, ça me touche beaucoup.
Voilà. À la page 37 donc, de ce livre-ci, Bleu du ciel, pour Marc. Mon amour, je t'écris ces mots depuis un train à grande vitesse, le 24 octobre 2019. On vient de passer Arras, écoute-moi. Si l'on est dans une voiture sur le siège passager, devant à hauteur du rétroviseur, fenêtre ouverte, ou si l'on marche en plein air avec en main un miroir de poche, imagine alors, mon amour, qu'on a une pince à épiler dans son sac ou à portée de main. Imagine qu'à ce moment-là, le ciel est bleu et qu'il y a un nuage blanc juste au milieu du ciel. Alors, avec la pince à épiler, tu saisis le minuscule nuage blanc dans le reflet du rétroviseur ou du miroir de poche et tu le déposes dans un sac. Le nuage ainsi saisi pourrait servir de mouchoir, de coton doux, de mouton de poche ou de nuage. Nuage pour le lait ou pour la bruine nécessaire à tes soifs intérieures ou pour tes pensées. Ce qui marche pour le nuage blanc, mon amour, marche aussi pour les éoliennes qui pourront te servir ainsi cueillies à la pince, à épiler, de petits ventilateurs ou de moulins à prière ou d'hélices pour ta tête pour que s'envolent tes pensées nuageuses ou pour te mener au septième ciel.
À vrai dire, avec un miroir de poche et une pince à épiler, tu peux tout récolter. Le monde devient alors à portée de main, et les papillons, et les prairies, et les fusées aussi. Et même les camions, avec 39 personnes en train de se faire pétrifier, congeler. Alors, en plus de tes yeux, du miroir et de la pince à épiler, il te faut une bonne oreille, une oreille hyper attentive au bruit du monde. Alors oui, tu pourras entendre les 39 corps qui tentent de défoncer la porte épaisse du conteneur réfrigérant, 39 personnes qui tentent de rejoindre l'Angleterre, 39 personnes qui fuient la misère, la guerre, et qui croient qu'une frontière, si elle sépare, est toujours une ligne à franchir. Et tu pourras aussi attraper le conducteur en flagrant délit de congélation, d'assassinat délibéré. Oui, celui-là, tu pourras l'attraper avec ta pince comme une mouche et l'épingler au mur. Et puis ouvrir la porte du camion et laisser partir 39 personnes, ou bien juste les réchauffer dans le coton blanc nuageux, ou d'autres couvertures très douces, et les envoler au septième ciel avec les éoliennes épilées du paysage. Et puis hop, le camion dans le sac. Tout se range aisément dans un sac, mon amour. Toutes les constructions des hommes, ou les constructions naturelles, sont à taille humaine et même à très petite taille. Et l'on se prend à rêver d'un monde différent, une fois qu'on l'a lavé et allégé de tout ce qui nous blesse, nous asphyxie, nous laisse sans voix. Un monde que notre visage dévisage, envisage, réenvisage et viscéralement ravive, avec le courage de le regarder en face, au miroir qui s'ajuste à notre main, à notre cœur, le courage de fixer notre regard dans l'obscurité de l'époque, d'y plonger notre face et d'y percevoir la lumière, même si elle nous semble s'éloigner infiniment, le courage de regarder le monde dans ce miroir qui te fait dire « Mon amour, je suis parce que nous sommes, et si nous sommes, je suis. » Merci.
Voilà, donc là, il y a évidemment une teneur politique. On passe de l'amour, on glisse de l'amour à un propos assez tranchant, hein, et pour cause.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc tu me poses la question du politique un peu.
Ben oui, voilà. Est-ce que tu en as conscience, évidemment, hein.
Ben, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. C'est pas une volonté, mais je me sens assez poreuse, comme tous les poètes, hein, mais on est poreuse à des choses différentes. Et alors, comme moi, je suis beaucoup dans la rue, beaucoup. Je marche beaucoup dans la rue, et alors je suis tout le temps, j'ai l'impression d'être tout le temps traversée par ce qui arrive, et alors ça doit ressortir, quoi. Mais c'est pas.
Mais donc moi j'ai beaucoup d'intérêt et de respect pour cette possibilité-là qui est pas courante d'équilibrer le politique et je dirais la nature, la teneur littéraire d'un écrit. Hein, donc c'est assez intéressant.
Mais toi tu es très tu travailles beaucoup la forme, enfin le. Comme tu dis, tu es là, que tu vas vraiment au nerf, tu vas à l'os un peu, c'est une poésie qui va à l'os. Toi, tu dis que tu enlèves les répétitions et tout. Moi, je fais exactement le contraire, en fait. Et j'ai l'impression, mais c'est super intéressant, en fait. J'ai l'impression que aller à l'os, pour moi, c'est d'épuiser tellement le mot qu'à un moment donné, un sens m'apparaît presque. C'est presque en triturant la langue et en allant au bout de la langue que le sens va m'apparaître, quoi. Mais j'ai besoin de que ce chemin s'écrive aussi, quoi. Tandis que toi, tu vas. Enfin, voilà.
Oui, le chemin quand ça devient réflexif, j'enlève.
Voilà.
Hein, ça, c'est sûr. Enfin, bon, ceci dit, en fait, je ne réécris pas, moi.
Non, non, moi non plus.
C'est tout du jet, ouais. Du premier jet, et donc j'enlève, mais les choses, grosso modo, même à 99%, telles qu'elles sont dans le livre, je ne les ai pas ciselées, retravaillées, enlevées à un mot, laissées. Voilà, c'est pas une écriture, c'est une écriture du premier jet, en fait. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que finalement, il y a une cohérence dans chaque livre, mais aussi dans ce que j'appelais tout à l'heure le parcours de l'œuvre. Et on se dit, mais cette cohérence, donc il y a une intention, j'ai beaucoup réfléchi. Pas tellement, en fait.
Non, non, non. En fait, ça te sort comme ça.
Oui.
Mais je pense que en Belgique, dans la poésie, il y a toujours eu un peu ces deux courants-là. Parce que moi, je pense à... Moi, j'aime beaucoup, par exemple... Enfin, en fait, j'aime plein de poètes, mais dans ceux desquels il y aurait peut-être quelque chose de plus proche, ben, il y aurait peut-être Verhaeghen, qui joue tellement génialement avec les mots, mais qui a ce plaisir de dire les mots tout haut, et qui a beaucoup d'humour aussi dans sa poésie. Par exemple, une de sa poésie, donc... Il est édité là, en poésie Gallimard, et une des premières poésies du recueil, c'est une devinette. Mon premier a une cigarette au bec, mon deuxième n'a pas de cigarette au bec, mon troisième a une cigarette au bec, et mon quatrième n'a pas de cigarette au bec, et mon cinquième a une cigarette au bec, et mon sixième n'a pas de cigarette au bec. Et mon tout, c'est le bruit que fait un cheval fou qui court dans le désert. Tataclop, tapataclop, tataclop, tapataclop, tataclop, tapataclop. Voilà. Et sa poésie, elle est comme ça, mais en même temps, il a écrit Artaud Rimbure, par exemple, et donc c'est une poésie comme ça qui à la fois qui joue beaucoup avec les mots, mais qui est très politique aussi, parce que je pense que toute poésie est politique. Ça, c'est mon avis, parce que moi, je pense qu'en étant comme ça dans les mots, que ce soit en étant dans l'os des mots ou dans une des tout ce qu'on veut, eh ben forcément on rejoue le langage, on rejoue ce que le langage peut avoir de quotidien, on le remet en jeu, et donc on renverse un peu l'ordre du monde, tous les deux.
Ah oui, je suis bien d'accord.
Et donc, en ça, je pense que la poésie, tout poète a quelque chose de politique parce qu'il remet en jeu quelque chose de l'ordre du monde. Je ne sais pas ce que t'en penses, Marc.
Je ne peux pas parler sans micro, mais je suis d'accord.
Oui, tout à fait. Oui. Éminemment, oui, bien sûr.
C'est peut-être le fil sur lequel on danse. Tu lirais encore quelque chose?
Oui.
Moi, je voudrais t'entendre encore.
Oui. je ne sais plus trop quoi vous lire, en fait, finalement. On va reprendre encore un peu.
Mais c'est drôle parce que tu prends des petites phrases à droite, à gauche, et je trouve que c'est beau d'entendre la continuité de ta poésie aussi.
Oui. Mais c'est-à-dire que je me dis qu'à l'écoute, comme ça, quand on reçoit ce que j'écris, à l'écoute, ça doit quand même pas être facile de découvrir et en même temps de saisir, pas toujours comprendre. Hein. La compréhension rationnelle n'est pas nécessaire à tous les coups en poésie et dans celle que je pratique. Parce que parfois, il y a des ellipses poétiques et donc on est comme ça, c'est suffisant. Et donc, c'est pour ça que parfois, j'allège ou j'enlève aussi à la lecture. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu as repris une page que tu as lue complètement.
Voilà.
Effectivement. Donc, tu veux que je lise complètement?
Bah oui.
Bon. Je vais essayer de faire ça, alors.
Deux, trois pages dessus, d'accord. Que tu nous fasses une petite continuité.
Ouais. Ouais. Mais c'est soporifique aussi, hein. C'est pas comme toi, tonique, comme ça.
Bah après, je viens.
D'accord, tu les réveilles après.
Voilà.
Ça va, c'est très bien. Si je vous parle doucement à cette heure moyenne de la journée, dans une lumière grise d'hiver, ce n'est pas pour contrer l'indifférence de ce qui nous entoure, mais pour en suivre le cerne continu. En apprendre la forme dans l'idée d'une acceptation. Gravitation des corps qui conduit au centre avant de disparaître avec lui. Il n'y a rien d'autre derrière ce que nous appelons la vie. La lumière traverse la frondaison des arbres et fait briller quelques feuilles dans sa transparence. Clair-obscur, dont on ne peut vouloir que la clarté, et autant d'éclat que l'obscurité. La caresse de la lumière et la simplicité des passages qui nous conduisent à la fenêtre. Légèreté de l'air, fermeté du sol. Je ne sais mieux dire, avec ce peu que sont les mots, passant anonyme, la silencieuse foulée du parler. Objet d'usage quotidien, dont on devine les affaires minimes, devant quoi on ne cesse de revenir, auquel je reviens comme à une soif sans étanchement.
C'est beau aussi, on a la continuité. Ça fait voyager, quoi. On voyage. Merci.
Et alors, on va clôturer tout doucement, hein, j'imagine. Hein. Et alors, moi, ce que je voulais aussi mettre en avant te concernant, et ça, je voulais vraiment le lire, donc je vais le lire. Enfin, je les ai tous voulu vraiment les lire, mais celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que c'est 145. C'est TG. Alors, ici, souvent, j'ai débusqué comme ça des notions, des thèmes dans l'écriture de Laurence. C'est une écriture très urbaine, la ville, mais en même temps, il y a souvent l'appel aux arbres et à la campagne. C'est une écriture qui ne cherche pas tant ce qui est policé, mais qui cherche la sauvageté aussi. Hein, et on le voit aussi dans la posture du corps à exprimer les mots. Hein. Et donc, parmi tous ces thèmes, il y a le quotidien, la femme. Alors ces thèmes se mélangent, se brassent entre eux. Le quotidien, la femme, et je trouve ça très politique aussi. TG. Alors, tu me prendras en relais, hein, ouais, comme tu as fait tout à l'heure. TG. Je suis passé au TG. Tête de gondole. Je suis au TG. J'en raffole. Tête des rayons, des grandes surfaces. Je dégomme, je les mets en place. Je dispose les promos. Paquet de pâtes, paquet de pâté, paquet de l'ange ou de café. Je dispose pour que tu prennes 10 centimes de moins les deux packs. Promo de la semaine. Les grandes marques écoulent leur stock. Allez, profite. Je suis gondolière, salaire de misère. Vie dure, la vie est dure. Je suis au TG. Tête de gondole. Ça me passionne. Je les organise comme des tableaux, en sériel, en couleur, en quadrille. C'est mon soleil. Je tisse les packs, découpe les marques, tisse les stocks, attise les tocs des réclames. Parfois, je reçois un plan d'attaque pour disposer précisément les stocks de packs.
Les œufs de Pâques, les ustensiles promo de la semaine. Parfois, c'est fait, il n'y a pas de plan et j'en fais rien qu'à ma tête de gondolière. Je suis au TG, c'est en France hein, qu'on dit les têtes de gondole. Et je manifeste et je me syndique qu'on me laisse dormir au moins le dimanche. Et je me démène dans mes TG, tête de gondole, j'en suis folle. Chaque TG, je la photographie avec mon portable, c'est éphémère. Chaque jour, je casse des TG, j'en refais des neuves. Je suis gondolière. Et à Venise, j'irai jamais. Je suis gondolière du supermarket, j'en suis fière. Tête des gondoles. Et mon patron, s'il veut me virer, je lui montrerai toutes les photos pour qu'il sache qu'il n'y a pas mieux que moi comme gondolière. Et puis le soir, je vais aux asperges dans la colline. Asperges sauvages, je les ramasse pour une omelette. Et je consomme et j'accumule, je surcumule dans ma maison, dans ma chaumière d'ouvrière, tous les produits des rayonnages, j'essaye tout, tout ce qui se consomme sans cuisiner, tout ce qui s'ouvre et puis s'avale, et le sol chez moi c'est que du papier, que du carton, des emballages, c'est le bousouf, chez moi c'est le bordel, le grand désordre, tu sais même pas où mettre tes pieds, poubelle du supermarket chez moi, mais les TG, quand je les apprête, c'est du tout neuf, tout propre, nickel, allez, faut que t'achètes, allez, profite de la ristourne que moi j'affiche dans mes gondoles, allez, prends, pour qu'on m'en donne encore des tas de TG, des tas de gondoles. Je suis gondolière. Et à Venise, mais j'irai jamais. Et j'aime beaucoup récolter la parole des gens. Donc c'est une partie importante de mon écriture. C'est écouter les gens et en faire et la leur restituer après, la mettre sur scène aussi. Et donc ça, c'était une tête de gondole, quoi, en fait, en France, qui vivait vraiment misérablement. Et pour terminer, peut-être, j'aime bien faire des choses un peu collectives aussi. Donc ici, il y a un refrain. Donc là, c'était la parole, celui que je vais faire, parce que tu as parlé de campagne. Donc là, j'étais en résidence d'écriture. Donc toi, j'écris beaucoup dans des endroits... On me met dans un quartier, dans une ville, dans un hôtel, dans un hôpital psychiatrique, dans une cité. Et je vais me mettre à récolter les paroles et à faire de la matière à dire, quoi, pour donner la parole à ce qui est invisibilisé, en fait. Ça m'intéresse beaucoup. Et donc là, j'étais en résidence dans une exploitation d'agriculture bio, un maraîchage bio dans le haut du Jura, près de Saint-Claude, chez Laurent et Armel. Voilà, il y a un refrain. Le refrain, c'est des herbes et des herbes et des herbes et... Et ça, on le fait tous ensemble. Et on peut l'essayer. 1, 2, 3. Des herbes et des herbes et... Et on le fait deux fois, la phrase. D'accord ? Voilà. Alors, aujourd'hui, haut du Jura, chez Laurent et Armel, maraîchage label bio, grand désherbage des oignons. Depuis 7 heures le matin, les corbeaux autour de nous croassent. Ils attendent l'heure de la main lasse qui leur laisserait quelques graines en pâture. Les corbeaux aiment les graines, toutes les graines. Les chevreuils aiment les mauvaises herbes, c'est sucré. Les mauvaises herbes. Jolies souvent, jolies toujours, mais leurs racines profondes rivalisent avec celles de l'oignon. Allez, j'arrache! En agriculture bio, il n'y a pas de désherbant qui grignote nos ventres. Et 1, 2, 3, 4, désherbé. Allez, ici, pas de vernis qui tienne. Faut enfoncer tes ongles loin, bien loin dans la terre et trouver la racine de l'herbe mauvaise. Allez, j'arrache. Toi, la mauvaise, tu piques, j'arrache. Lorsque je lui ai annoncé mon changement de vie, dit Armel, ma kiné, elle m'a dit, il va falloir que vous envisagiez votre activité comme celle d'un sportif de haut niveau. On vit avec les saisons, au quotidien c'est compliqué, énormément d'heures, nos idéaux nous tirent, lier la parole à l'acte et se réaliser. Je me suis dit à un moment, il faut que je sois dans le fer et 1, 2, 3, 4, désherbé. Allez, quand vous avez fini votre travail d'assis, venez arracher l'herbe folle. Et si vous êtes 10, en une heure, on a fini l'ouvrage et l'oignon que tu mangeras dans ton assiette aura la saveur du désherbage. Des herbes profondes, crève tes amertumes et toutes tes rancunes. C'est plus loin que tu ne crois, toujours plus loin que la mauvaise herbe croit, dit le corbeau là-bas, croit. Allez, viens désherber après ton travail. Tu dormiras bien mieux qu'avec une pilule. Tu dormiras profond, les pensées nettoyées et désherbé. Maraîcher, maraîchère, ensemble lions nos mains, ensemble lisons poème. Sans manger, je ne suis rien, mais sans poème, peut-être déchantons-nous un peu. Il est là aujourd'hui, le temps de l'agriculture, de la culture aux champs, des champs de la culture, champs de la terre, pour ensemencer mon être, champ de mon être pour ensemencer la terre. Et nous les gens de la ville, on désire tous un coin de terre, on aspire tous au coin de ciel pour déplier nos corps pressés et délier nos mains fragiles de citadins, de citadines. Oh rage, oh désherbage, et désherbé. Désherbé. Merci pour ces désherbages. On peut peut-être passer la parole à la salle.
Voilà, si vous souhaitez faire un commentaire, poser une question.
Juste une remarque. Je vous suis sur Facebook. Bonjour.
Ah oui, voilà.
Et je dois dire que tous les poèmes que vous lisez, je crois toujours que c'est de vous. Mais pourtant, vous en lisez des tas, de tas de poètes. Et chaque fois, je dis, oh, c'est du Laurence Vielle. Je suis chaque fois émerveillée parce qu'il y a deux choses. Il y a le texte, mais dit par vous, ben, je rentre dans un autre univers. Voilà, merci.
Ben, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé faire ça. C'est né pendant le confinement grâce à Musique 3, qui m'a proposé de faire ces capsules. Laurence Vielle lit la poésie. Et je m'étais inspirée pour le titre de Jacques Bonafé, qui est un très grand diseur en France, qui faisait sur France Culture, il faisait Jacques Bonafé lit la poésie. Et donc, on se connaît bien. Et alors, je lui ai demandé si je pouvais lui voler le nom de son émission, enfin, ses capsules de poésie. Et c'est comme ça que c'est né. Et d'ailleurs, on va faire à 7 dans 3 semaines, on va faire une soirée ensemble qui va s'appeler Laurence Vielle et Jacques Bonafé lisent la poésie. Ça va être super chouette. On va lire des poètes qu'on adore chacun. Et en fait, moi, j'ai eu une joie folle à faire ça, mais donc j'ai quand même choisi des poèmes. Et d'ailleurs, j'ai dit un poème de Marc, non ? J'ai pas dit un poème, je crois, non ? Enfin, j'ai l'impression d'avoir dit tellement de poèmes. En tout cas, ouais, voilà, j'ai dit des poèmes de Yves Namur. murs. J'ai dit, enfin, toutes sortes de poètes. J'essaie chaque fois de dire des Belges et de dire des poètes d'autres cultures. Et je choisissais quand même des poèmes, des poètes qui avaient une certaine durée, parce que la capsule dure entre 2 et 3 minutes. Et alors, j'essayais qu'il y ait une oralité, même que je trouve que tout passe dans tout peut être dit. Ben, j'essayais que ça donne le goût de la poésie au plus de gens possible. Et donc, qu'il y ait quelque chose d'assez immédiat quand même dans la... Oui, voilà. C'est vrai que j'avais fait cette chose-là.
Oui, je l'ai suivi.
Ah, merci beaucoup. Ah, mais c'est chouette. Oui, voilà.
Tu n'as pas dans ta tête, dans ta mémoire ou dans un des livres, ce poème que tu écris sur une des paroles du Christ en croix? J'ai
les
soif.
Sept paroles du Christ en
oui,
croix.
Oui, il y a eu ce spectacle, si je puis dire, où...
Je ne l'ai pas ici. Il n'a jamais été édité.
Ah, bon,
donc,
voilà.
c'était...
J'ai le souvenir d'avoir été très touché parce que c'était vraiment... Tu travaillais sur la sonorité de ce « J'ai soif » et tu faisais passer quelque chose d'extraordinaire dans ce qui est pour moi, en mécréant que je suis, mais peu importe, dans la plus belle des sept dernières paroles du Christ, c'est le moment où il dit « J'ai soif ».
J'ai soif.
Je trouve ça... Voilà, pour moi. Et je trouve que tu en avais fait un texte qui par le travail sur ces sonnets, tu faisais soif. Enfin, tu avais une façon de travailler sur ce mot soif qui faisait passer énormément de choses.
Ah, bah, voilà. Donc, ça me donne envie d'aller redéterrer ces textes.
J'aimais donc, beaucoup ce texte, mais je ne l'ai jamais retrouvé.
Mais donc, c'est à partir de cette œuvre musicale, donc les.
Oui, c'est ça, de Haydn, qui et était donc, joué cette fois-là, et tu lisais, et
voilà.
Quelqu'un d'autre
et
aussi.
Et Elsmore avait aussi écrit
voilà,
cette. On devait reprendre les sept dernières paroles du Christ, et en fait. Se les réapproprier en tant que poète, puisqu'Elsmore était la poétesse nationale
néerlandophone
voilà, exactement.
Si tu avais eu ce texte dans un coin de ta mémoire, je t'aurais demandé de le lire.
Je te l'apporterai un jour, je te donnerai le livret si tu veux. Le livret. Et ce projet poète national, quand tu parlais justement de politique, Serge, c'est quand même un projet un petit peu politique à la base, puisque l'idée, c'est de tous les deux ans prendre un poète néerlandophone et puis un poète francophone. Parce que l'idée, quand même, c'est qu'on ne connaît pas du tout les poètes néerlandophones. Tu en connais, toi, on les connaît très mal.
Très mal, très mal.
Oui.
Je connais des poètes du monde entier et peut-être moins ceux de l'autre côté de la frontière.
Et idem pour eux, ils connaissent des poètes du monde entier et pas les poètes belges francophones.
Mais Francis Dan. Marc avait écrit une anthologie avec des poètes francophones et néerlandophones en vis-à-vis.
Oui, il y a eu plusieurs fois cette tentative de faire entendre...
Certains ont été traduits aussi, Myriam Vanet.
Oui, très grande poétesse ben néerlandophone, Myriam Vanet, qui était chez Tropisme, je pense, il y a quelques jours. On m'a dit que c'était magnifique. Et donc, ce projet, c'est vraiment aussi pour qu'on découvre vraiment, parce que ça permet de traduire les poèmes qu'on écrit pendant un an en néerlandais. Donc moi j'avais sorti ce livre après, où j'ai la chance que mes poèmes soient traduits en néerlandais et même en allemand. Et c'est des poèmes qui doivent un peu être liés à l'actualité, un petit peu quand même. Et donc c'est un projet avec sûrement des ratés, hein, Serge. Sûrement des ratés, parce que c'est difficile d'écrire des choses liées à l'actualité.
Ah, oui.
Par exemple,
oui.
Pendant que j'étais poète nationale, il y avait eu les attentats dans le métro. Et j'avais dû écrire le lendemain un poème. Ouf. C'est presque impossible. Et je l'ai fait parce qu'il y avait cette demande... De ceux qui organisent ce projet aussi. Mais donc, oui, c'est très curieux comme demande. Et en même temps, c'est un projet qui permet des choses. Oui, ça pose question. Hein. Je vois Marc qui est en question. Ouais.
J'ai la poésie sur commande, de toute façon, ça, il me semble que ça pose toujours un problème.
Mmh. Ouais, ouais.
Parce qu'on se donne une contrainte qui peut donner quelque chose de très parlant, mais qui peut aussi donner quelque chose de laborieux.
Mmh, c'est tout à fait vrai.
J'ai toujours un peu l'idée que la poésie, il y a quelque chose qui doit être plus fort que nous, mais voilà, la vieille idée d'inspiration, on peut discuter, mais il y a quelque chose qui doit nous emporter, et le risque de travailler sur commande, c'est qu'on soit laborieux, trop voulu dans ce que l'on fait. Mais ça peut être très réussi aussi.
Oui, tout à coup, la commande peut rencontrer en nous une nécessité.
Voilà, voilà. Et en plus, dans ce que tu dis, voilà, il y a des événements qui touchent tout le monde, et donc si tu arrives à écrire là-dessus, évidemment, ça a du sens aussi.
Mmh. Ouais. Voilà, en tout cas, ce projet a ce côté-là quand même de très intéressant. Papa, tu veux dire quelque chose?
Papa veut dire. Comme toujours. Non, moi, je suis chaque fois très étonné quand je l'entends, parce que je ne parviens pas à m'habituer. Mais ce que je voulais dire, l'intérêt d'une soirée comme ça, avec deux poètes complètement différents, c'est que pour ceux comme moi, qui sont des béotiens en poésie et en littérature en général, je me dis que ce sont deux choses totalement différentes. Tu as d'une part un poète pour lequel, malheureusement, il me faut souvent beaucoup de temps de lecture et pour lire et relire, pour essayer de comprendre. Tandis que l'avantage avec Colette, avec Laurent, c'est qu'on lit ça une fois et on est tout de suite dedans.
On l'entend une fois.
On l'entend. Donc c'est vraiment quelque chose de... On la voit. On voit sa poésie. C'est ça qui est assez spectaculaire. Mais je trouve que la différence est tellement importante que c'est très, très enrichissant de vous entendre. Très enrichissant d'essayer de voir les couleurs que vous mettez dans les mots, dans les phrases, etc. Chose que chez Laurence passe un peu inaperçue. Parce que c'est très... ça fait beaucoup de bruit.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment ça, ça t'a très bien dit. Moi, je pense qu'un livre comme ça, qu'on met sur sa table de chevet, c'est une nourriture permanente, en fait. C'est une nourriture...
Voilà. Je savais que j'étais un père nourricier, mais pas à ce point.
Mais non, mais c'est vrai.
Mais c'est, merci beaucoup. Mais c'est politique, c'est-à-dire que c'est la biodiversité, voilà. La démonstration de la biodiversité.
C'est très intéressant.
Oui, c'est chouette que je suis d'accord avec toi.
Moi, j'ai une petite question pour Serge. Quand tu te demandais quel rapport entre poésie et politique, en gros, est-ce que toi, tu as des poèmes vraiment politiques en stock et que tu voudrais publier un jour? Et qu'est-ce qui te motiverait à les publier ou à ne pas les publier?
Non, alors ça va être une réponse très courte. Malheureusement, je n'en ai pas. Je pense que je suis politique au sens très large. Et avec, je dirais, quand on s'éloigne de la planète, de beaucoup de kilomètres. Mais non, moi, le TG, pour moi, bon, je serais incapable d'écrire ça, mais pour moi, c'est magnifique, parce que ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au plan politique. Mais c'est vrai que, comme on disait tout à l'heure, je crois que les mots, nommons à tous, dans le domaine poétique, c'est, par définition, c'est le sortir du champ mercantile, du champ des intérêts de profit ou de carrière, enfin, ou des champs de domination, justement, toutes les dominations. Et donc, je suis politique seulement à ce niveau-là, à ce plan-là.
Et pourquoi? Parce que dans la forme, ce n'est pas tout à fait ton écriture, mais dans l'intention, pourquoi est-ce que c'est...
Mais justement, parce qu'en fait, je ne décide pas grand-chose.
Oui, oui, c'est ça, ça te traverse.
Oui, oui, même si... c'est ça qui est... Je pourrais même pas donner une réponse. On pourrait se dire, mais enfin, parce qu'on m'a déjà dit, c'est surtout à cette époque-là, les livres récents ou les livres que j'ai fait paraître chez Rougerie Éditeur sont plus immédiats, justement, comme vous le disiez. Mais sinon, je me dis, mais c'est pas possible. Il a réfléchi, c'est intellectuel. Il a réfléchi. Il a construit. Ben non. Non. Mais après coup, je dois dire qu'il y a une cohérence, oui, ça c'est certain. Et une progression, un mouvement d'un livre à l'autre. J'ai souvent l'habitude de dire que la vie avance comme une spirale, c'est-à-dire qu'on repasse toujours au même endroit, mais à une hauteur différente, et donc avec un champ d'expérience, le temps de faire la spire, on acquiert un champ d'expérience différent, et on revoit le même endroit, mais avec des yeux chargés d'une vie différente. Voilà. Et bon, moi, c'est un peu ça, mon écriture. Mais pour la politique, TG ou d'autres, c'est quand même beaucoup plus immédiat. Et la politique, ça doit être une action immédiate.
Hein. Oh, oui.
Enfin, comme je l'entends, et ce que j'entends sous le mot de politique.
Mais il y a le petit livre, j'ai un petit livre de chevet, qui est la poésie, Art de l'insurrection.
J'ai cru que c'était le livre rouge de Mao.
Voilà, et c'est fait...
Là, j'ai eu peur,
ouais,
quand
c'est
même.
Fait exprès. C'est fait exprès, donc pour les auditeurs de la radio, c'est un petit livre rouge, aussi édité par les éditions Maelstrom. C'est Ferlinghetti, un grand poète américain, et ça s'appelle Poésie, Art de l'insurrection. Ça se glisse dans une poche, comme le livre rouge de Mao. Et ça parle de ce pouvoir actif de la poésie. Et voilà, là, c'est toutes des définitions. La poésie ne vaut rien, et par conséquent, elle n'a pas de prix. La poésie, c'est l'énergie de l'âme, si l'âme existe. La poésie, on peut lire n'importe quelle page. La poésie, c'est le parfum de la résistance. La poésie, c'est un dialogue de statues nues au son de la gaieté et des pleurs. Tu peux ouvrir où tu veux.
La poésie, c'est l'essence des idées avant qu'on les distille en pensée. Un poème devrait s'élever dans l'extase, quelque part entre paroles et chants.
La poésie est un frisson sur la peau de l'éternité. La poésie, c'est la distance la plus courte entre deux humains. Voilà. Voilà. Le livre rouge,
ça, c'est de l'insurrection.
Ouais. Un beau livre à avoir, chez toi.
Très bien, mais on peut terminer peut-être là-dessus.
Oui.
C'était merveilleux. C'était deux poètes avec nous ce soir, deux univers. Hein. Merci beaucoup, beaucoup.
Ben merci,
merci de ton initiative.
Merci, hein, merci à tout le monde.
Oui, merci à vous d'être là. Merci vraiment, c'est formidable d'avoir tellement de personnes.
Merci beaucoup. Merci.
Cet échange de poésie à deux a été enregistré le 27 novembre 2024. Merci à Yves Limange qui a imaginé la rencontre à la librairie À Livre Ouvert à Woluwe-Saint-Lambert. Retrouvez cet enregistrement sur le site Lapsus à l'oreille, tout lié, lapsusalloreille.be.